Radio Galère 88.4 de la bande FM marseillaise DAB+. L'histoire continue et permanente, une émission d'Éric Lebreux. Mémoire de militant, Jacques Jourquet, du maquis au maoïsme, troisième partie, Jacques Jourquet et le Front populaire.
Alors il se trouve que dans cette période, plusieurs événements vont m'impressionner, m'interpeller en tant qu'enfant, mais même en tant que jeune collégien, et de plusieurs sortes, mais qui vont tous s'orienter dans le même, qui vont tous converger finalement. D'une part, mon grand-père marseillais va mourir en 1933, mais il a beaucoup insisté pour qu'on me fasse faire la communion solennelle catholique. L'autre grand-père, dont j'ai déjà expliqué qu'il était un anticlérical forcené, un bouffeur de curé, dirait-on aujourd'hui, m'a certainement fait un lavage de tête, j'en sais rien, un lavage de cerveau. Toujours est-il que je l'ai peut-être déjà expliqué précédemment, mais je refuse de faire la communion. Et ma mère, qui insiste un peu parce qu'elle aime son père, mais qu'elle est devenue athée au contact de mon père, je lui dis, si vous me forcez à faire la communion à l'église, je cracherai sur le curé. Elle se dit, il est capable de faire un tel blasphème, une telle bêtise, et finalement on abandonne la fameuse communion. Je n'ai donc jamais fait de communion, ni solennelle, ni ordinaire, je ne sais pas s'il y a plusieurs catégories, catholiques, c'est tout. Mais dans cette période-là, je m'étais aperçu que beaucoup de mes condisciples allaient entre 16h et 17h, le soir après nos cours, aller dans une pièce spéciale où il y avait un curé qui arrivait. Les curés à cette époque-là, on les repérait facilement parce qu'ils avaient des soutanes et des grands chapeaux à large bord. Et mes copains allaient donc suivre les cours de catéchisme. Naturellement, j'y suis pas allé. Mais je restais au début, tout au moins, en récréation avec d'autres copains. La plupart, alors tous, ou presque tous, étaient des enfants de familles juives, qui étaient internes d'ailleurs au lycée, parce que c'était des familles de gens qui habitaient Paris et qui mettaient leurs enfants comme internes au collège de Fontainebleau. Et ces copains, je vais les citer d'ailleurs, parce que je vais les citer avec émotion d'ailleurs, Okonowski, Jakobowicz, je donnerai son nom d'ailleurs à une nouvelle que j'ai écrite beaucoup plus tard, Dreyfus, Ginsburger, mon meilleur copain Ginsburger, tous ces copains-là, un beau jour, eux, à leur tour, ils commencent à m'abandonner aussi, entre 16h et 17h, et je vois arriver un monsieur de petite taille, de noir habillé aussi, comme le curé, mais pas en gandoura, habillé en costume, et aussi avec un chapeau, mais pas le même chapeau, bien sûr, mais un chapeau noir aussi, et une large barbe. Une barbe noire, il devait être jeune cet homme-là, et j'apprends rapidement qu'il s'agit du rabbin qui, lui aussi, vient donner un enseignement religieux à mes condisciples, et c'est l'enseignement qui les prépare à la bar mitzvah, c'est-à-dire à la communion, à ce qui correspond à la communion des catholiques chez les juifs, la bar mitzvah. Ce qui fait que je me retrouve un petit peu seul, le seul enfant laïque de toutes ces histoires-là, mais ça va se doubler entre 34 et 36 d'une montée épouvantable de l'antisémitisme chez les enfants d'officiers, les enfants de la noblesse qui sont nos condisciples. Et alors on attaque mes copains en les traitant de sales youpins, de sales juifs, d'étrangers, de métèques, tout ce qu'on voudra. Il y a même des bagarres. Mon copain Ginsburger, une fois, est encerclé par une bande de nos condisciples et on le frappe. Et un nommé Néry, les noms me reviennent très bien, un nommé Néry lui assène des coups de poing sur le nez et mon pauvre Ginsburger, il a le nez en sang jusqu'à ce qu'un maître d'internat et puis le professeur de gymnastique, M. Oudinot, interviennent et le fassent libérer. Mais je me bagarre, moi aussi, j'essaye de le défendre, mais j'en prends plein la figure, moi aussi. Mais enfin, j'ai pas le nez qui saigne, mais j'en prends aussi plein la figure parce que c'est des choses que vraiment je raconte à la maison et ma mère me sensibilise beaucoup. Je suis d'autant plus sensibilisé à ce racisme ignoble que dans cette période-là, je pense que c'est en 33-34, enfin à partir du moment où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, qu'arrivent en France un certain nombre de Flüchtlinge, c'est-à-dire de réfugiés, qui sont ceux qui arrivent à Fontainebleau, viennent vivre 8 ou 10 jours à la maison chez mon père, on les héberge, mes parents les hébergent. Ce sont des sociodémocrates, des membres du Parti social-démocrate, et souvent ils ajoutent à cette qualité politique, cette appartenance politique des sociaux-démocrates, le fait qu'ils sont aussi juifs en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être les victimes de Hitler. Certes, il y avait des réfugiés communistes qui arrivaient et qui étaient pris en charge par le Parti communiste français de l'époque. Alors, j'étais très sensibilisé. Ces hommes, quelquefois, ne parlaient pas du tout français. Mon père, qui avait donc fait l'allemand, il baragouinait un peu l'allemand. Vous savez que bara guiné, ça vient du breton bara et guin, qui veut dire savoir connaître suffisamment une langue pour demander du pain et du vin. Hein, bara et guin. Bara guiné, un petit peu l'allemand. Et un jour, j'ai eu même la surprise de voir arriver un homme très jeune. Enfin, je ne sais pas moi, il avait peut-être 19-20 ans, qui devait être un étudiant en matière artistique, je ne sais pas. Et il avait demandé à visiter le château de Fontainebleau. Ce qui fait que mes parents, j'étais déjà suffisamment grand pour le guider dans le château. Je l'ai fait visiter la cour des adieux de Napoléon, dans Descarpes, la partie de François Ier, enfin toutes ces choses-là. Également le jardin des Anglais. Et je l'ai fait visiter tout ça et... Il me semble qu'il s'appelait Ernst, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Et ce jeune garçon, ensuite, naturellement, comme ses compatriotes, était acheminé par le Parti Socialiste sur Londres. Voilà, et ça, alors, donc, ça m'avait extrêmement sensibilisé. À tel point que, devant les exactions qui étaient commises par les camelots du roi et les jeunes enfants d'officiers ou de la noblesse, pas tous d'ailleurs, faut pas généraliser d'une manière absolue, mais enfin, beaucoup d'entre eux qui flirtaient avec la fleur de lys, ils mettaient des fleurs de lys sur une bague ou bien même à leur boutonnière. Avec quelques-uns, nous avons décidé, à l'initiative d'un garçon dont le père va devenir très célèbre, lui-même aussi, qui s'appelait Paul Auriol, nous avons décidé de constituer une section de la LICA. La LICA qui venait de voir le jour, je pars, à moins qu'elle soit née déjà en 31, mais en 36, voilà, c'est vers 35-36 par là, avant que je ne quitte Fontainebleau avec mes parents. On constitue la LICA Fontainebleau avec Paul Auriol, qui est le futur secrétaire général de la présidence de la République et qui est en fait le fils du futur président de la République d'après 1945, Vincent Auriol. Lui était en première quand je devais être en cinquième ou en quatrième. Il était plus âgé que moi. Et moi, on m'a admis là-dedans parce que j'étais plein d'ardeur, de passion dans ces questions-là, étant sensibilisé par ce que je connaissais à la maison, à travers mes parents, et puis parce que je vivais au collège sur ces questions de racisme. Et alors, là-dedans, tous les copains que nous avions, c'était tous ces enfants juifs dont j'ai parlé, ces enfants, ces collégiens qui avaient, à l'époque, enfin, si moi j'avais 12, 13 ans, eux, ils avaient 15, 16, 17, 18 ans. Et malheureusement, je dois dire que chaque fois que je passe à Fontainebleau, je vais me recueillir un moment devant le monument aux morts de Fontainebleau, qui est situé boulevard de l'Obélisque, là-haut, tout en haut. Et sur ce grand mouvement, je retrouve les noms de mes condisciples, de presque tous mes condisciples. Je crois qu'il y a aussi Lichtar, que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, mais enfin, Okonowski, Lichtar, Jacobowitz, Dreyfus. On avait un surveillant, un répétiteur qui s'appelait Monsieur Veil, qui était quelqu'un de très calé sur le plan de la zoologie et de la botanique, qui travaillait avec le professeur Dufour de l'Institut des sciences, et lui aussi a son nom sur le monument. Ils ont tous disparu dans le Nartungnebel de hitlérien, dans le racisme et l'Holocauste.
Il faut savoir que concernant la LICA, sa création est liée à l'affaire Petlioura. Le 25 mai 1926, Samuel Schwarzbach, un réfugié juif ukrainien exilé en France, abat de sang-froid à Paris le leader nationaliste ukrainien Simon Petlioura, ancien chef de l'Ukraine indépendante, qui juge responsable des pogroms organisés dans son pays pendant la guerre civile russe de 1918 à 1921. Bernard Lukács, journaliste issu d'une famille juive d'Ukraine, suit le procès de Samuel Schwarzbach, qui est déclaré non coupable par le jury, bien qu'il ait clairement revendiqué l'assassinat de Petlioura. Bernard Lukács se lance dans une campagne médiatique et fonde un groupement, la Ligue contre les pogroms, qui devient le 24 février 1929 la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA. En 1932, le nom devient Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais le sigle LICA est conservé. Ce n'est qu'en 1969 que l'acronyme LICRA est adopté. Au début des années 30, la Ligue compte 10 000 adhérents répartis en sections et fédérations à travers toute la France et constitue une force incontournable dans la bataille contre les ligues après les événements du 6 février 1934. Dès janvier 1933, la Ligue accorde aussi une importance au combat contre le nazisme après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Et elle va s'employer à traduire en français Mein Kampf afin de démontrer la dangerosité du nouveau chancelier. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le gouvernement nazi fait traduire Mein Kampf en langue étrangère, mais pour des raisons politiques, les versions traduites sont souvent expurgées, modifiées ou inexactes. Hitler ne tenait pas à ce que le public étranger, et plus particulièrement le public français, devine ses véritables intentions. et préféré la diffusion d'une version exposée de ses passages les plus francophobes. Dans sa version initiale, Hitler désignait déjà la France comme un ennemi à abattre. À l'automne 1933, le général Jacques Lachèvre, actif au ministère des Anciens Combattants, demande au germaniste André Calmette de traduire la version originale de Mein Kampf et contacte Fernand Sorlot, un éditeur proche de l'Action française, propriétaire des nouvelles éditions latines, afin de publier l'ouvrage. L'Action française, qui est une organisation fascisante et aussi antisémite, est à cette époque aussi une organisation très germanophobe, et donc favorable à cette traduction non expurgée de Mein Kampf. Mais elle est de loin d'être la seule organisation. L'ALICA, dans sa lutte contre l'antisémitisme, partage la même position que l'Action française. On va donc assister à un paradoxe où les deux organisations, de bord politique complètement opposés, finissent par avoir une convergence d'objectifs. L'ALICA noue une alliance secrète avec l'éditeur Fernand Sorlot en lui versant une importante somme d'argent correspondant à l'achat de 5000 exemplaires. Au printemps 1934, Hitler apprend la traduction intégrale de la publication de Mein Kampf en France. Furieux, il fait poursuivre les nouvelles éditions latines devant le tribunal de commerce de la Seine pour atteinte aux droits d'auteur et contrefaçon. Hitler autorisait ça en 1938 une traduction aux éditions Fayard complètement allégée, expurgée de sa haine contre la France, voire falsifié ou laisse entendre dans un discours pseudo-pacifique que les peuples français et allemands, égaux en droit, ne doivent plus se considérer comme ennemis héréditaires, mais se respecter réciproquement. Évidemment, cette formulation de la part d'Hitler est tout à fait fausse, car ses intentions de se venger contre la France sont toujours présentes.
Az umertok, wie ständig sonnig schein und die Natur dann gehat in sich a sehr viel Chein. Es haben Fägerler gesungen, Freiler sich herumgesprungen, in Gettot men uns geheißen gehen. Ach, stellt's euch vor, was ist von uns geworden? Verstanden ob mir, sie ist alles verloren. Sollten nicht geholfen unsere Betten, als wir soll uns ist erretten. Wir haben verlassen unser Heim. Gewesen ist der Weg sich lang, sie schwer gewesen zu gehen. Mir doch, als gucken dich auf uns, zu wein wohl sie verstehen. Gegangen sahen es keinem Kinder, wie zu der Akäderin, der Menschen so Blut geflossen ist in das. Jetzt seine Name alle mir versparte, verpeinigte von dem Leben auf die Harte. Taten und Namen, selten wäre sie zusammen, der Seine und der Gerät sein gerissen sind. Seinen mir zu viel befeuern oder rar, zu berengen jeden Fuhn herum und schießen auf Panar. Zu seinen Gewohn stieber, ob er fuhr, der fahrige Rieber der Seine oder Gräser gerissen sind. Heu auf Panar, jetzt setzt man auf die Wegen. Sachen Hitlen durchgenässt von Regen. Das sind Sachen von Carbones, von die Eilige, nicht schon was wir dort sehr auf ewig zugedämmt. Und jetzt ist wieder sonnig schön, schmeckt prachtvoll als Arom. Und wir sind in Verpeinigte und leiden alle Sturm. Abgeschnitten von der Welt, mit eichem Meuern verstellt, hast der Ralf und Offenung der Werkzeugkammer.
Dans la région parisienne, l'occupation des usines métallurgiques par les ouvriers en grève n'a donné lieu à aucun incident. Le drapeau rouge a été arboré.
Actualité pâtée de juin 1936.
On sait qu'une entente entre patrons et ouvriers a mis fin à ce conflit.
1936, victoire du Front Populaire, et puis il va y avoir la guerre d'Espagne, c'est surtout la guerre d'Espagne qui va me déterminer. Mais dans cette période-là, effectivement, une des premières grandes manifestations à laquelle j'assiste, parce que je suis emmené par mon père, c'est la manifestation du 14 juillet 1936 à Paris. Je ne me rappelle plus de la Bastille à la République ou de la République à la Nation, je ne m'en souviens plus du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait un défilé gigantesque et que j'étais à côté de mon père dans les rangs du défilé socialiste avec les trois flèches, etc. Et que à un certain moment, et ça je m'en souviendrai très très bien, à un certain moment le défilé socialiste a conflué avec le défilé communiste qui arrivait d'une autre artère. Et alors, de toutes les poitrines ont commencé à jaillir le cri « Unité, unité, unité ». Et c'était... sinon des embrassades, c'était quand même des gens qui se retrouvaient dans la lutte contre le fascisme. Je pense personnellement que c'était très positif. Alors il y a des petits détails qui me restent et qui peut-être aussi avec les lectures sur cette période me sont confirmés par ces lectures. Vous savez, le souvenir c'est un peu comme ça. Il y a le souvenir personnel et puis il y a le souvenir de ce qu'on vous a raconté. Mais toujours est-il, il me semble bien que les socialistes, quand je vais dire nous, puisque j'étais avec eux à ce moment-là, j'étais tout jeune, 14-15 ans, les socialistes levaient le poing, mais le bras tendu en l'air. Et ils disaient, tous unis comme les cinq doigts de la... Je ne sais pas si c'était ou les communistes, enfin peu importe, ils levaient le poing, ils fermaient le poing, ils le levaient en haut. Et tandis que les communistes saluaient du poing, mais avec le bras replié et le poing un peu comme un salut militaire au niveau de la tête, au niveau de la... Et voilà, il y avait une petite différence entre les uns et les autres, mais tous les deux avaient le signe du poing levé. Et si j'ai bien compris, ce point signifiait tous unis comme les cinq doigts de la main. Et ça, ça m'avait frappé. Je dois dire que ce défilé auquel j'ai participé m'a tellement impressionné. Enfin, c'est un détail un peu particulier que le soir, j'ai attrapé une bonne indigestion et ma mère a été obligée de me soigner et a engueulé mon père gentiment en lui disant, enfin, on n'a pas idée d'emmener un si jeune garçon dans une telle manifestation. Mais je suis aujourd'hui très heureux d'avoir participé à cette grande manifestation du Front Populaire à l'époque. Mais c'est vrai que c'était mes premiers pas. Le 14 juillet 1936, mon père était nommé professeur principal du collège de Pont-de-Vaux dans l'Ain et on allait quitter Fontainebleau. Et le 31 juillet 1936, j'ai donc 14 ans, 14 ans et demi, nous faisons nos adieux aux camarades socialistes, et moi, mon père m'a embrigadé dans les Faucons Rouges ou les Jeunesses, je ne sais plus du tout, je ne suis pas resté longtemps, vous allez voir d'ailleurs, très très peu de temps, 3 ou 4 mois, pas plus. Mais le 31 juillet 36, mon père me fait faire en pleine forêt de Fontainebleau, une sortie champêtre, amicale, chaleureuse, dans la convivialité, il me fait faire une conférence sur la vie et l'assassinat de Jean Jaurès. Mon père avait une admiration pour Jean Jaurès, bien entendu, et c'était un peu, ça faisait partie un peu de sa jeunesse. Et pour que je puisse faire cet exposé, il m'avait donné un livre sur Jean Jaurès d'un nommé Alexandre Zévaès. Je dois avoir encore ce bouquin dans mes archives, là par là. Et effectivement, en forêt de Fontainebleau, devant tous les jeunes, nous avions tous des foulards rouges, des bagues avec la faucillée. Ben non, c'est plus tard. Avec les trois flèches, la faucillée de manteau, c'est un an plus tard. Tous, nous étions très enthousiastes. J'ai donc fait mon premier discours politique, en quelque sorte, le 31 juillet 1936, pour l'anniversaire de l'assassinat, de la mort, donc, de Jean Jaurès, devant la section socialiste. Et puis, peu de temps après, bon, il y a la guerre d'Espagne, et alors, je ne sais plus si c'est en 37 ou 38, il va y avoir la politique du gouvernement de Front Populaire présidé par Léon Blum, la politique de non-intervention. Et c'est là que va se produire ma première rupture idéologique et disons politique et même organisationnelle avec mon père, non pas une opposition du fils au père, je pense pas, mais parce que moi je suis pour l'intervention en Espagne à fond pour soutenir les républicains, et mon père m'explique que le gouvernement a raison, le parti socialiste, faut éviter cette intervention parce qu'on pousserait en avant le courroux de Hitler et on risquerait de déclencher la guerre mondiale. Et tout ça, je pense qu'effectivement, bon, moi je crois que je continue à croire aujourd'hui que j'avais raison de critiquer la non-intervention en Espagne, le non-soutien, parce que l'Allemagne fasciste nazie et l'Italie fasciste de Mussolini ne se sont pas privés de soutenir activement le fasciste Franco avec des bombardements aériens, avec des envois d'armes et tout, tandis que les pauvres républicains en face, sur communistes, socialistes, anarchistes ou ceux que l'on voudra, ben, c'est pas qu'ils avaient les mains complètement sans armes, mais ils étaient dans une infériorité absolue qui fait que finalement, cette république que du Front Populaire sera vaincu. Rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam, rumba la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. El ejército del Ebro, la bumba la bum bam bam. Una noche río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Y las tropas invasoras, la bumba la bum bam bam. Buena París Alesio, ay Carmela, ay Carmela. Buena París Alesio, ay Carmela, ay Carmela. Furor de los traidores, la bumba la bum bam bam. Furor de los traidores, la bumba la bum bam bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Pero nada pueden bombas, rumba la bumba la bum bam bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Con ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bum bam bam. Con ataques muy rabiosos, rumba la bumba la bum bam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, la bomba la bomba bam. Pero igual que combatimos, la bomba la bomba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. 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 Et c'est un moment important de ma vie, parce que mon père, qui était un homme avancé et ouvert, a constitué l'un des premiers comités d'unité d'action socialo-communiste entre la section socialiste SFIO de Fontainebleau et la cellule communiste d'Avon. Avon Fontainebleau, ça fait une commune. Et avec un instituteur communiste qui s'appelait Chaumeron et qui, après 1945, deviendra le secrétaire particulier de Jacques Duclos, secrétaire national du PCF, comme on le sait. Alors, naturellement, ce que pensait mon père des communistes, naturellement, il les trouvait en général trop avancés, trop violents, bien, il n'était pas d'accord avec l'international, etc. Il avait les positions de son parti à ce moment-là. Mais en même temps, face au fascisme, il ne doutait pas une seconde qu'il fallait s'allier avec les communistes, ce qu'il fit. J'ajoute que ma mère jouait un rôle important dans ce que j'entendais à cette époque-là, et ma mère disait toujours, entre une dictature blanche et une dictature rouge, mon choix est fait, je choisis la dictature rouge. Ça, c'était la prise de position de ma mère, qui sera d'ailleurs communiste sur la fin de sa vie, au moins 5 ou 6 ans avant mon père, hein, sur la fin de leur vie. Hein. bon, c'est-à-dire après, nettement après 45, quand ils seront à la retraite. Bien. Donc, mon père n'était pas agressif vis-à-vis des communistes, au contraire, il était pour l'unité. Et en ce qui me concerne, j'étais donc influencé par ça. Ce qui se passe, c'est que les camelots du roi de mon collège me malmenaient. Un jour, il se trouve que je reçois un coup de batte. Ils avaient des matraques, ils avaient tout, des coups de poing américains, tout ça. Un jour, sur la place de l'Étape à Fontainebleau, je suis agressé par des camelots du roi. Ils me blessent et je saigne du front. À ce moment-là, je suis dégagé par deux hommes qui devaient avoir entre 20 et 30 ans, hein, des hommes. Et ces deux hommes étaient les diffuseurs de l'humanité. Et c'était des communistes, un nommé Dugas et l'autre, j'ai oublié son nom. Dugas était ramoneur, il avait un foulard rouge lui aussi, et puis l'autre était ramasseur des poubelles, il devait être employé municipal. Et à partir de ce moment-là, ces hommes qui probablement, dans leur intention, visaient à influencer mon père, ils se sont mis avec mon plein accord, et mon père était très libéral pour ça, pour moi, ils se sont mis tous les jours, une fois qu'ils l'avaient lu, à mettre dans ma boîte aux lettres, c'était le ramasseur des ordures ménagères qui me mettait ça, il me mettait l'humanité. Et finalement, j'ai réussi à prendre, avec le soutien financier de ma mère, j'ai eu mon premier abonnement à l'humanité en 1936. Ce qui fait que effectivement, je me tournais davantage vers ces gens-là, parce que, à mes yeux, c'était ceux qui étaient le plus actifs, le plus offensif, disons, et naturellement, c'était ce qui me plaisait le plus, il faut tenir compte de mon âge aussi. Et puis alors, bon, effectivement, je commençais à me chamailler un peu avec mon père sur ces questions-là. Mais je suis resté quelques mois, donc, membre des Jeunesses Socialistes, et il se trouve, ça je ne te l'ai pas dit, qu'après ce 31 juillet 1936 que j'ai évoqué pour la conférence sur Jean Jaurès, il se trouve que nous sommes descendus à Marseille dans la famille. Et là, mon père m'a fait recevoir à la semaine d'études des Jeunesses Socialistes du 2 au 9 août 1936, qui se tenait à Marseille. C'est là que j'étais le plus jeune délégué de France, et c'est là que j'ai entendu des orateurs, des Jeunesses Socialistes, qui s'appelaient Chauchois, qui a dû être député du Nord par la suite, Fernand Col, qui venait de Toulouse, je ne sais pas, j'ai jamais su ce qu'il était devenu, mais c'était sous la présidence du maire de Marseille qui s'appelait Henri Tassot, et il y avait là un jeune avocat qui va devenir très célèbre par la suite, et qui aura une grande carrière politique, et qui s'appelait Gaston Defer. Il est évident qu'aujourd'hui j'y fais attention, mais sur le moment, moi j'entendais tous ces gens-là, leur nom ne me disait pas grand-chose. Le seul souvenir que j'ai, malheureusement, je l'ai perdu et je ne l'ai plus dans mes archives, c'est qu'on m'offrit à cette occasion une magnifique photo de Léon Blum ou de Jean Jaurès. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais plus lequel des deux, mais je crois que c'était de Léon Blum, et que derrière, tout le monde avait signé, c'est-à-dire Henri Tassot, Gaston Defer, enfin tous ces dirigeants de la semaine d'études des Jeunesses Socialistes, y compris un réfugié socialiste député italien, mais foutu dehors ou qui s'était enfui de Mussolini, qui s'appelait Amedeo, qui a été très connu par la suite. Alors j'ai ce souvenir-là, et le dernier souvenir, pour mettre un petit peu de choses amusantes dans mon récit, c'est qu'on nous a fait balader en autocar dans toutes les municipales socialistes des Bouches-du-Rhône. On est allé à La Ciotat, où il y avait des bateaux en construction, c'était magnifique, je voyais ça pour la première fois de ma vie. De là, on nous a ramenés sur Martigues, la Venise provençale, on nous a ramenés à Septem, tout ça c'était des municipalités socialistes. Et partout, on offrait aux autocars, on était plusieurs autocars, plein de jeunes socialistes délégués de la France entière, on nous offrait des apéritifs, on nous offrait de quoi boire. Et quand ça a été terminé, que mon père est venu me chercher le soir, je ne sais plus trop, à la section socialiste ou à la Fédération socialiste de Marseille, eh bien, on ne m'avait pas trop fait attention à moi. Comme j'avais bu, je ne tenais plus sur mes jambes, et je rappelle ce détail comme étant la première cuite de ma vie. Il est vrai que j'en prends une tous les 20 ans à peu près, comme j'ai 73 ans, tu vois, j'ai dû prendre 3 ou 4 cuites dans ma vie. C'était toujours des accidents. Voilà.
Comme des corps de la lumière et la mer bleue dans le lointain, des gens qui font pas de manière, très accueillants, cœur sur la main, toute une foule remuante qui va et vient incessamment. On se bouscule, on rit, on chante, c'est français gai et c'est vivant, et tout ce mouvement joyeux sous un soleil du feu de Dieu, du soleil, du bruit, des chansons. Ça c'est Marseille, ça c'est Marseille. Marseille, le dimanche à l'héros cabanon. Ça c'est Marseille, ça c'est Marseille, les chichourlettes aux yeux câlins, le bon pastis dès le matin, la bouillabaisse et les oursins. Et pardon, j'oubliais la yolie, ça c'est Marseille et le midi. On n'entend pas des troncs de l'air et des bagasses coquines de sort. Ça, c'est des phrases que peu chères on nous attribue dans le Nord. Mais on dit je vais au balletti, ça veut dire je vais danser. Tu m'estrancines les spaghettis, ça c'est un peu plus compliqué. Nous parlons comme tous les gens. En plus, voilà, il y a l'accent sans façon. Pistachier, bon enfant, ça c'est Marseille, ça c'est Marseille. Et galégé tout en travaillant, ça c'est Marseille, ça c'est Marseille. À Saint-Histoire, au quai malheur, lui fait suguer son petit cœur, puis l'épouser avec bonheur. Tout comme Marie-Eugénie, ça c'est Marseille et le midi.
C'était L'Histoire continue et permanente, une émission animée par Éric Lebreu sur les zones de Radio Galère 88.4 de la bande FM DAB+. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger en podcast sur le site de Radio Galère.